Moi, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Et je vous souhaite la riche bénédiction de Dieu. Quand nous écoutons cette parole et recevons les cantiques dans nos cœurs, un désir profond survient en nous d'être auprès du Seigneur. Et nous souhaitons que ce serait déjà possible aujourd'hui, pas demain, déjà aujourd'hui, que nous soyons détachés de tout et soyons ravis dans la gloire de Dieu, où il n'y aura plus de tristesse qui pourra venir, plus d'incompréhension, plus de douleur de cœur. Le Seigneur alors essuiera de nos yeux toutes les larmes. Il n'y a aucun homme qui a expérimenté Dieu dans lequel ce désir ne grandirait pas jour après jour et heure après heure. Nous avons sûrement des difficultés à retenir nos larmes. Nous sommes touchés. Nos cœurs sont ainsi touchés. Quand nous pensons à ça, que le Seigneur a tout préparé pour nous, nous qui absolument sommes indignes et ne voulions rien savoir de lui, et malgré tout, il nous a cherchés. Ô amour de Dieu, si plein et profond, ancien et toujours nouveau. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? De ce que Dieu nous est appelé à sortir, et par grâce et de grâce et miséricorde, nous a couronné de grâce et de miséricorde. Le frère Balaam disait une fois, dans la prédication du film, un homme s'était adressé à lui et pensait: j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Et alors, frère Branham lui a dit: je ne voudrais pas contredire, mais je dois le faire. Ni toi, ni quelqu'un d'autre a cherché Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché, c'est Dieu qui nous a cherché. Déjà, dans le jardin d'Éden, on a vu ce qui se passait. L'homme se cachait devant Dieu, devant la face de Dieu. Mais Dieu, lui, ne se cachait pas devant l'homme. Le Seigneur vint. Il a su que Adam et Ève étaient tombés. Il aurait pu se retirer et dire: ça, c'était votre décision. Maintenant, débrouillez-vous seul. Je vous l'avais dit à l'avance. C'est comme ça que peut-être que nous aurions réagi, mais pas Dieu. Dieu n'a pas laissé l'homme seul. Il vint à lui dans le jardin, et il l'a revêtu de peau. Et avant que cela puisse avoir lieu, il fallait que le sang coule. Et c'est ainsi que Dieu le Seigneur, déjà dans le jardin d'Éden, directement après la chute de l'homme, il a voulu montrer que la réconciliation vient par le sang. Et c'est ensuite que vous serez revêtus dans les vêtements du salut. Au quand on observe les chemins de Dieu, les voies de Dieu, qu'est-ce qui l'a poussé à faire tout cela? Et comme dans la parole d'introduction, nous l'avons lu dans Ésaïe 43, je donne des nations pour ta rançon. Qu'est-ce que les Amoritiens, les Ébobitiens et tous ces peuples lui ont signifié? par Abraham, Isaac et Jacob. Il a un peuple sur terre avec lequel il parle, avec lequel il pouvait donner des promesses. Et pour, c'est pour eux qu'il a fait tout. Qu'est-ce que Dieu a manqué de faire? Rien. Pour son peuple, il l'a tout fait. Il a chassé 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que Israël, chacune individuellement. Et tout cela à cause d'elle. C'est écrit dans Deutéronome 7, chapitre 1. Parce qu'il avait appelé Abraham de Ur Chaldéen et l'avait fait devenir son ami et lui avait donné des promesses. Et ensuite, par Josué, dans le dernier chapitre de Josué, il dit qu'il est allé chercher Abraham qui avait servi d'autres dieux et il a établi pour être une bénédiction. Josué 24. Qui peut comprendre cela? Au milieu, parmi tous les autres peuples. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai dit quelque part, c'était pas seulement Abraham, il n'y avait pas seulement Abraham. Il y avait son frère Nahor. Il y avait le père Tarar. Dieu a laissé Tarar sans s'adresser à lui. Dieu a laissé Nahor sans parler avec lui. Dieu a vu Abraham. Bien aimé cœur. À côté de toi, à droite et à gauche, Dieu a laissé des gens, des personnes. Pourquoi est-ce que c'est à toi qu'il s'est adressé? Pourquoi est-ce que c'est à moi qu'il s'est adressé? Dieu, avec notre vie, a quelque chose, a des intentions particulières. Et ça, nous devons le comprendre et le respecter et dire, Seigneur, nous voici parce que tu as parlé avec nous. Tu nous as donné des promesses et tu nous as fait des promesses. Et ces paroles de Dieu, nous les portons dans nos cœurs. Et nous savons que tu feras toutes choses bien. La chorale a chanté concernant le pays de Canaan, de l'autre côté du Jourdain. Le psalmiste dit dans un chapitre, qu'est-ce qui s'était arrivé, toi mer que tu te retires, et toi Jourdain que tu te fendes, alors que les collines sautaient et que les arbres frappaient dans les mains. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur conduisait la chose de son peuple. Il vint dans la colonne de feu. Il est descendu dans la colonne de feu. Qu'est-ce que c'était? Toi, qu'est-ce qui t'était arrivé, toi, mer rouge, que tu te sois fendu? Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que cela s'est passé? Parce que le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse traverser. Et toi, avec toi, Jourdain, pourquoi tu as été fendu? C'est pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans le pays de, puisse traverser et entrer dans le pays de la promesse. Quand ensuite on lit dans Josué, on trouve des choses précieuses. Les sacrificateurs ont porté l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait le contrat de Dieu avec son peuple. L'alliance que Dieu avait faite. Et le Seigneur se tenait sur sa parole et conduisait son peuple d'une manière merveilleuse. Pensez-vous que Dieu a changé? Pensez-vous que sa parole est restée sans effet? Pensez-vous que ses promesses ont perdu leur validité? Non. Dieu est véritable. Sa parole est véritable. Et dans tout ce qu'il fait, il est fidèle. Même Si nous serions infidèles, il reste fidèle. Je ne dois pas oublier, cela m'arrive à chaque fois, toujours de nouveau, que tout de suite, j'entre dans la prédication. Le frère Pézal vous remet à tous ses salutations fraternelles. Et ça, je veux ici l'avoir fait. D'Ésaïe 43, nous avons tous remarqué en lisant ce qui est écrit ici. Et la raison, nous ne l'avons pas non plus méprisée. Parce que tu as du prix à mes yeux, le verset 4. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu as du prix à mes yeux, le verset 4. Ésaïe 43. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que je t'ai aimé, je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. En rançon. Comme c'est merveilleux de ce que Dieu le Seigneur pouvait dire cela. Les hommes, n'est-ce pas, ont regardé au peuple de Dieu avec mépris. Jusqu'aujourd'hui, cela a lieu. Aucun peuple de tous les peuples, et ce sont 157 nations qui sont dans l'ONU, de toutes les nations, pas un peuple sur toute la terre a été puni d'un tel mépris comme le peuple d'Israël, aucun autre. Mais de la même manière, il n'y a aucun peuple sur terre, aucun pays qui presque tous les jours fait la une des journaux. C'est un paradoxe. C'est presque comme un contraste. D'un côté, on ne veut même pas mentionner ce peuple. Ils ne veulent même pas admettre son existence. Et d'un autre côté, tout tourne autour de ce peuple. Et tel que Dieu le Seigneur laisse dire dans les prophètes, ce peuple qui habite au centre de la terre. Nous voyons que les chemins de Dieu sont simplement merveilleux et que les voies de Dieu et que sont merveilleuses et ceux qui sont conduits et dirigés par lui reconnaissent ses voies. Il est écrit, il a fait connaître à Moïse ses voies et aux enfants d'Israël son œuvre. Dieu nous laisse savoir ses voies et sur ses voies, nous expérimentons son œuvre. Il agit selon sa parole qu'il a donnée. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ésaïe 43, verset 4, il relit. Pas aux yeux des peuples. Pas aux yeux des hommes, Dieu dit. Parce que tu as du prix à mes yeux. Pas ce que ton voisin, tes collègues de travail, tes amis, pas ce qu'ils pensent de toi. Ce n'est pas ça qui est valable. Mais ce que Dieu pense de toi. Et que nous puissions le saisir ou pas, nous aussi, toi et moi, et tout le peuple de Dieu est précieux, a du prix aux yeux du Seigneur. Pour nous, il n'a pas donné pour rançon des peuples, mais lui-même, il est entré dans la brèche pour nous et il s'est laissé crucifier. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Nous connaissons, n'est-ce pas tous, Jean 3, verset 16. parce que tu as du prix à mes yeux. Bien-aimé cœur, la parole est aussi valable pour toi aujourd'hui et pour moi aujourd'hui. Est écrite pour toi. Tu es concerné ici parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Peut-être sans valeur pour les autres, mais plein de valeur, du prix pour Dieu. Et que je t'ai aimé. Verset 4. Ces trois expressions. Du prix, honoré et aimé. Ces trois expressions sont précieuses. On ne peut pas les mépriser. Une parole semblable dans Ézéchiel, le chapitre 16, est écrit. Là, il est dit, Ézéchiel, chapitre 16, à partir du verset 4, une parole semblable. À ta naissance, Ézéchiel 16, verset 4, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié, en allemand d'amour, pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Là, je passais près de toi. Et je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, alors que tu étais allongé là dans ton sang, vis. Oui, je te dis dans ton sang, vis. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Comme les herbes des champs, etc. Nous pourrions ici continuer à lire cette parole. C'est ainsi que le Seigneur a parlé concernant Israël. Personne s'est occupé de toi. Personne ne t'a exprimé un service d'amour, de compassion. T'étais en horreur pour tous. Et là, je passais et je t'ai aperçu. Comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux. Ces deux paroles sont ce qui concerne la rédemption, les plus précieuses qui sont exprimées dans les prophètes. Nous nous occupons dans ces jours avec la parole de Dieu, avec les promesses pour ce temps. Et Dieu, lui, s'occupe de nous, avec nous. Une parole qui a inondé mon cœur dans ces derniers temps, nous la trouvons dans le dernier verset du prophète Ésaïe, dans le dernier chapitre, le chapitre 51. Particulièrement, le verset ici, peut-être que je lis à partir du verset 22. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, le Très-Haut, qui défend son peuple, en allemand qui conduit les choses de son peuple. Particulièrement, cela, qui défend son peuple, qui conduit les choses de son peuple. Le Seigneur conduisait les choses d'Abraham, les choses d'Isaac et de Jacob, les choses d'Israël car son peuple et tout ce qui devait se passer avec lui était la chose de Dieu. Si nous chantons ce cantique, la chose est l'œuvre est à toi, Seigneur Jésus, l'œuvre dans laquelle nous nous tenons. Alors, de ce verset, ça peut être repris. Ainsi parle, pas seulement le Seigneur, mais ton Seigneur, le Très-Haut, l'Éternel, ton Dieu. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il est le plus haut, le Très-Haut, le premier et le dernier. Avant lui, il n'y avait personne. Et après lui, il n'y aura personne. Il est le Très-Haut, l'Éternel, ton Dieu. Sa parole est valable au ciel et sur la terre. Et c'est ainsi que parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. Pas seulement Dieu, mais ton Dieu. Une relation personnelle. Et ensuite, il est dit qui défend son peuple, qui conduit la chose de son peuple. Pas un prophète, pas un apôtre, pas un homme de Dieu, pas l'Église. Mais le Seigneur lui-même conduit les choses de son peuple. C'est lui qui conduit. Et nous sommes qu'une partie de ce plan du salut dans ce temps. Nous sommes seulement devenus une partie de ce plan du salut dans ce temps. Et nous avons en grande partie déjà compris que Dieu, n'est-ce pas, maintenant fera la fin de l'histoire du salut. Et que il dépend maintenant, il s'agit maintenant que dans nos cœurs, la pure semence de la parole de Dieu soit ensemencée, qui n'a pas le droit de continuer à être mélangée avec toutes sortes d'autres enseignements ou bien des propres façons de voir. Ainsi parle l'Éternel, ton Seigneur. Si cette parole retentit, ainsi parle, alors elle contient une assurance. Et c'est une assurance qui s'adresse à nous ici. C'est le Seigneur qui a parlé. Ainsi parle ton Seigneur. Et ça aussi, nous avons dit en insistant, ce n'est pas écrit ainsi parle Isaïe, ou bien Jérémie, ou bien Ézéchiel, mais à chaque fois, ainsi parle le Seigneur, ton Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur, en tant que parole de Dieu qui vivifie, elle nous est précieuse. Le ainsi dit le Seigneur nous est précieuse et nous est précieux et est devenue la chose la plus importante pour nous dans ces jours. Et nous voulons faire une claire différence entre ce que les hommes disent et entre ce que Dieu a dit. Et nous sommes prêts à écouter ce que Dieu dit. Mais nous sommes plus prêts à prêter l'oreille à ce que des hommes ont à dire. Ainsi parle le Très-Haut, ton Dieu, qui défend son peuple, en allemand, qui conduit les choses de son peuple. Et si nous recevons cette parole dans notre cœur et la croyons, alors nous pouvons nous reposer en Dieu. Et avec cela, cela ne veut pas dire que nous nous endormions ou bien endormons ou bien rêvons, ou bien, mais que notre foi est ancrée dans la parole de Dieu et que nous disons Seigneur. C'est ainsi que c'est. Tu nous as reçus, acceptés, agréés. Nous avons du prix à tes yeux, honorés, aimés de toi. Tu nous as aimés et nous t'appartenons et tu conduis les choses de ton peuple de manière merveilleuse. Tu défends ton peuple. Ce n'est pas nous qui nous défendons ou bien qui faisons l'œuvre de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui fait son œuvre par nous. C'est lui qui conduit les choses de son peuple. Et ça, ce n'est pas mon affaire ou bien ton affaire, ça c'est son affaire. ses intentions et son plan qu'il l'a, depuis le commencement, conçu. Il y a deux versets que, d'une prédication, je voudrais lire, et c'est-à-dire, de nouveau, dans cette brochure, la parole par elle est la semence originale. De la première partie de cette prédication, il y a deux parties. À la page 34 en allemand, c'est écrit, ici, frère Branham a d'abord voulu se référer à lui et au ministère pour soutenir, pour étayer que quand Dieu parle, cela est toujours vrai et s'accomplit et arrive toujours. Indiquez-moi une seule fois où je vous aurais dit quelque chose de faux, quelque chose qui ne soit pas arrivé. Indiquez-le-moi, quoi que ce soit, à n'importe quel moment, que Dieu n'aurait pas confirmé et accompli exactement tel que cela avait été dit. Il y avait dans notre temps, et il y a, et il n'y aura, il n'y avait pas, et il n'y aura aucune personne, il n'y aura aucune personne qui pourrait dire tel que cela a été dit ici. Tous les autres avaient déjà leur prétexte à leur disposition. Quand ce qu'ils annonçaient n'arrivait pas, cela était toujours la faute des autres. Mais Dieu, qui a la vue d'ensemble sur tout à l'avance, il ne peut pas dire après d'avoir annoncé quelque chose où je ne me suis pas attendu à cela. Je n'ai pas pu m'attendre à cela, non. Les hommes n'ont pas pu s'attendre à ce que quelque chose leur empêcherait d'accomplir ce qu'ils ont dit. Mais quand Dieu promet quelque chose, dit quelque chose, il a déjà à l'avance connu l'issue de la chose et su qu'il allait le faire. Et Dieu a envoyé un homme dans cette génération qui seulement parlait quand Dieu avait parlé et annonçait quelque chose à l'avance après que le Seigneur lui l'avait révélé. Pour nous, c'est une grande signification. À quoi est-ce que nous sert les prédictions les plus puissantes si elles sortent du cœur des hommes? À quoi bon toute vaine consolation et s'attendre à de grandes choses que les hommes voudraient bien voir arriver, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu? Je continue à lire. Si la semence parole est prédestinée comme lui l'a été, que produira alors la même eau? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui est une épouse qui a été prédestinée? Dieu a-t-il dit qu'il allait avoir une épouse sans tache ni ride? Donc, elle a été prédestinée, n'est-ce pas? Eh bien, Christ aussi avait été prédestiné. Il était la semence royale d'Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé par cela? Quand l'Esprit est venu sur Christ, il a rendu témoignage de la parole de Dieu. Et si l'eau, l'Esprit, descend sur la semence parole, alors tombe sur la semence parole, alors la semence royale de la foi d'Abraham qui croit la parole de Dieu produira une récolte de la même espèce. Quelle déclaration merveilleuse. Ici, l'Église, l'épouse est mis au même niveau que Christ, l'époux. Il n'a pas eu honte de faire connaître son nom parmi ses frères. Et il l'a fait. Il est devenu semblable à nous. En toutes choses, en tant qu'homme, il fut trouvé. Et pour pouvoir être un souverain sacrificateur fidèle. Il était la semence de laquelle, déjà dans Genèse chapitre 3, verset 15, il était fait mention. Mais qui es-tu? Et qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous aussi, nous sommes la semence de Dieu. Semence de Dieu. Nous étions en Christ, selon l'Esprit, tel que en Adam, selon la chair, nous avions été. Nous ne pouvons peut-être pas exactement comprendre cela, entièrement comprendre cela. Mais nous allons déjà encore, dans la foi, le saisir. Que la semence divine a servi à la procréation comme dans le terrestre, aussi dans le spirituel. Tel que sur Christ, l'Esprit vint, lui qui était la semence divine manifestée dans la chair. Et qu'en lui, cette rédemption pouvait s'accomplir afin que les rachetés reçoivent la rédemption de leur corps, l'adoption, et ensuite nous recevrons de Dieu le même corps glorieux de résurrection. C'est ainsi que, tel que c'était avec l'époux, c'est ainsi que ce sera avec l'épouse. Il était en tant que rédempteur prédestiné. Nous sommes en tant que rachetés prédestinés. La même parole, le même esprit, tout cela est le grand programme de notre Dieu. Le Seigneur a parlé de cela, qu'il y aura une église qui sera sans tache et sans rides, lavée dans le sang de l'agneau et purifiée dans le bain de la parole. Dans le prophète Ézéchiel, nous l'avons lu, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Ézéchiel 16, verset 4, et personne ne s'est occupé de toi, mais c'est par grâce que, parce que Dieu s'est occupé de nous et s'occupe de nous, nous pouvons prendre un bain d'eau de la parole. Cela a espéré, et je le crois dans le plus profond de mon cœur, que Dieu accorde la grâce à son peuple, sa grâce à son peuple, que ce bain dans la parole est fait minutieusement pour que ce soit un bain entier, pas juste un petit lavage, mais un bain dans lequel nous sommes purifiés et nous en ressortons pour que ainsi, après ce bain, Dieu puisse nous utiliser. Ici, il est dit dans la citation que la même semence parole sortira et produira une récolte de la même espèce. Qu'est-ce que c'est? Les mêmes promesses qui ont trouvé leur accomplissement en Christ trouvons leur accomplissement aussi dans son Église. Marie croyait autrefois et nous le croyons aujourd'hui. Et Christ prendra forme en nous. Je continue à lire déclaration. Qui est alors la semence d'Abraham? Pas celui qui est selon la chair. Paul le disait, Le juste, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais c'est celui qui l'est intérieurement. Romains 2, verset 28-29. C'est celui-là qui est la semence d'Abraham. Donc, ceux qui croient toute la parole de Dieu, ça n'a pas d'importance ce que les dénominations, leur papa, leur maman, ou bien quelqu'un d'autre dit. Ils croient toute la parole de Dieu. Là, vous avez la chose, la semence d'Abraham. Dieu disait, je ferai mon alliance avec ta semence. Dieu en Christ a fait une alliance avec nous. Il était prédestiné, nous sommes prédestinés. Et ici, il nous a dit que cette alliance est prédestinée. Et elle est valable pour lui et pour. Elle est valable pour Abraham et pour sa semence qui croit dans chaque génération après lui. Qui croit comme lui. Cette semence divine ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et cette semence divine, cette parole divine, porte la vie divine en elle. Et elle rejettera et repoussera d'elle tout ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Des hommes qui reçoivent dans leur cœur la parole de Dieu comme semence vivante par l'inspiration divine rejetteront chaque inspiration étrangère, pas d'eux-mêmes, mais l'Esprit de Dieu en eux et la parole de Dieu sera. Donc, la parole de Dieu en eux et l'Esprit de Dieu s'opposera à tout. S'opposeront à tout ce qui n'est pas de Dieu et ne vient pas de Dieu. Mais bien aimé, alors quand on pense à tout ce qui est fait et quand on pense à tout ce qui est appelé venant de Dieu et est appelé, quand on pense à tout ce qui est appelé message, alors on pourrait vraiment s'effrayer. Mais que Dieu soit remercié de ce qu'une semence est restée qui ne fléchira pas ses genoux devant Baal, des hommes qui n'agissent pas, qui ne veulent pas agir par précipitation pour produire un Ismaël, mais des hommes qui, dans leur cœur, portent la parole de la promesse divine et qui peuvent attendre jusqu'à que l'heure de Dieu frappe, arrive. Ce qui est triste a toujours existé, que les hommes, n'est-ce pas, ne pouvaient pas attendre et être patients jusqu'à que l'heure de Dieu soit arrivée. De la deuxième prédication, la parole de Dieu et la semence originale, je voudrais lire la citation suivante. À la page 46. Maintenant, il s'agit du pouvoir de l'Église qui croit. Christ possède tout pouvoir sur les cieux et sur la terre. Croyez-vous cela? Maintenant, qu'est-ce que c'est s'il est en vous? Est-ce que Christ possède vraiment tout pouvoir? Il est la parole semence dans son corps. Alléluia. Comprenons-nous l'ampleur de cette déclaration puissante? Maintenant, il s'agit du pouvoir de l'Église qui croit. la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de résurrection de Jésus-Christ sur cette terre doit être manifestée. Dieu a un corps sur terre et ce corps est l'Église de Jésus-Christ. En vous, la parole, en elle, donc l'Église, la parole et l'Esprit doivent agir. Et par elle, le pouvoir de Dieu doit être manifesté. Maintenant, il s'agit du pouvoir de l'Église qui croit. Christ possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que c'est alors? Si il est en vous, nous pouvons, n'est-ce pas, comprendre ce que cela veut dire. Si il possède, et s'il lui a été donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et que lui, en tant que ce pouvoir puissant, divin, à qui tout doit être soumis, et qu'il habite, a pris sa demeure en toi et en moi, et que nous sommes devenus sa maison, alors ce ne c'est plus nous, ce n'est plus nous et toi et moi, mais c'est Christ en nous, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et s'il a dit autrefois qu'il nous a donné la force, le pouvoir sur tout, les démons avec la puissance de guérir les malades, et voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, et il dit même, et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, dans les ciels. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce n'était pas un discours vain, des paroles vides. Ça, il a pensé. Il l'a pensé tel qu'il a dit. Mais nous devons comprendre le sens et l'objectif et la signification de ce message divin dans ce temps que nous avons reçu. Maintenant, il s'agit du pouvoir de l'Église qui croit. Cette Église qui croit, nous voulons la former. Nous voulons l'être. Nous voulons que Dieu puisse manifester son pouvoir. Ça veut dire, toi et moi, nous devons croire comme l'a dit les Écritures, pour que des fleuves d'eau vive puissent couler de notre cœur et que la parole de Dieu ne soit pas continuée à être blasphémée, mais qu'elle soit confirmée par l'Église du Dieu vivant, ici, sur cette terre, dans l'Église, par l'Église. Nous devons nous tenir en face de ce grand devoir que Dieu, dans ce temps, nous a donné. Ensuite, il est dit ici, il est la parole semence dans son corps. Comme c'est merveilleux. Il est la parole semence dans son corps. Lui en nous. C'est alors que la parole semence est en nous. Il devient en nous la parole semence. Et tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église. Ça, c'est la puissance, le pouvoir. Dieu est le Dieu Tout-Puissant, est le Tout-Puissant, et il était en Christ. Et cette puissance, cette toute puissance de Dieu, dans le ministère de Jésus-Christ, a été manifestée. Il a fait des miracles de création, de guérison. Aucun, jamais, un homme a parlé comme il parlait et a guéri comme il guérissait. Sa vie était une vie particulière. Mais ce n'était pas l'enveloppe terrestre, l'homme, mais c'était Dieu dans l'homme Jésus, Christ. la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu manifesté dans un corps de chair. Et c'est la même chose maintenant qui doit se répéter par l'Église. En Christ, d'abord, une fois, la parole est devenue chair. Et ensuite, se sont accomplies toutes les promesses qui se référaient à son ministère par lui. Et parmi tant d'autres, Ésaïe 35, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf. D'abord, il y avait une foi. La parole, la promesse principale qui devait d'abord trouver son accomplissement en lui. Et ensuite, par sa vie et par son ministère, toutes les autres promesses de la parole de Dieu se sont accomplies. C'est la même chose maintenant avec nous, avec l'Église. En tant que première chose, il faut que la parole de la promesse divine dans l'Église trouve son accomplissement avant que l'Église puisse être utilisée par Dieu pour que, en elle et par elle, toutes les autres promesses trouvent leur accomplissement. Il est dit ici encore dans la déclaration, je veux vous l'inculter. Oui. Il faut que cela nous soit inculpé. Cette comparaison entre Christ et l'Église. Aujourd'hui, nous, cela s'adresse à nous. Aujourd'hui, Dieu veut nous utiliser et nous établir pour être une bénédiction. Dans les Actes des Apôtres, je voudrais lire deux Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7. Actes des Apôtres 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Ici, il s'agit de cette pensée principale. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Pas une connaissance, pas un enseignement particulier, pas des propres opinions, mais la parole de Dieu. Et nous avons compris de quoi il s'agit dans ce jour. Pas seulement de la propagation d'un message, mais ce message doit être la sainte parole de Dieu elle-même. Et dans la parole de Dieu, rien n'a besoin d'être n'a le droit d'être ajouté ou bien retranché, car chaque mélange de la parole apporte une récolte mélangée de nouveau, produit une récolte de nouveau mélangée. Et à ce mélange-là, Dieu le sait, il faut qu'une fin soit faite, une fois pour toutes. Ça n'a aucun sens. Et aucune valeur, jusqu'au retour du Seigneur, de rester dans un état mélangé, dans le mélange. Nous devons prendre notre décision devant Dieu. Heureux ceux qui maintenant comprennent, le Seigneur est celui qui conduit lui-même les choses de son peuple. Comme l'avons lu, les frères conduisent leurs propres choses, ont leurs preuves, ont leurs enseignements particuliers. Et tout ce qui appartient à cela. Le Seigneur, lui, il conduit la chose de son peuple. Plus mon affaire ou bien ton affaire privée, mais il s'agit de l'œuvre de Dieu dans ces jours. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et même une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Nous attendons à cela. Pour nous, cela est possible. Et pour Dieu, c'est possible. Et Dieu va le faire, car à la fin, dans les derniers temps, les chaises seront remplies, occupées, pleines, et que des gens qui n'ont pas encore été appelés jusqu'à maintenant seront appelés. Et qu'ils seront obéissants à la parole de Dieu. Nous remarquons que beaucoup ont tourné le dos à la pure parole de Dieu. Et cela avec des citations et des déclarations qui sont trouvées dans plusieurs brochures, sans que ces déclarations soient fondées dans la parole de Dieu. Non, on les a détachées soi-même de la parole et ainsi du Seigneur. On s'est détaché du Seigneur ainsi et on plane dans l'air. Mais nous savons, il y a une épouse parole qui n'est pas employée seulement comme une formulation, comme ça, mais elle est vraiment, réellement, dans la réalité, une épouse parole. Et de cette épouse parole, dans cet esprit, sur cette épouse parole, l'esprit se répandra. Et la parole de Dieu sera reproduite comme une nouvelle vie en elle. Ici dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, c'est très bien, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Nous croyons que ces choses-là reviennent, que cela revient. Les deux mains dans la main vont ensemble, parce que les deux de la main vont ensemble. C'est le troupeau racheté par le sang qui, avant même la fondation du monde, a été élu à voir la gloire de Dieu. Ce troupeau reçoit la parole de Dieu et l'accepte. Et partout là où la parole de Dieu est acceptée, est reçue, l'Esprit de Dieu doit suivre la parole reçue et pour vivifier cette parole reçue. Ça, nous le croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. Cela a commencé avec Christ le Sauveur. La parole de la promesse s'est adressée à Marie. Et ensuite, cette déclaration suivante a été faite. Saint-Esprit, le Saint-Esprit reviendra sur toi. Parole de la promesse. Et ensuite, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Église du Dieu vivant, frères et sœurs, la même chose qui s'est passée avec le Rédempteur, avec le Sauveur, arrive avec les rachetés. La parole de la promesse de Dieu pour ses jours doit et dans la foi sera reçu. Ensuite, le Saint-Esprit vient dans le cœur de ceux qui ont reçu la parole de la promesse. Mais cette fois-ci, il ne s'agira plus de sauter et de courir et d'avoir des sensations de joie. Il ne s'agira plus de bouches balbutiantes. Maintenant, il s'agira de ce que la vie nouvelle, la vie de Dieu soit manifestée et que des fils et des filles de Dieu apparaissent avec lesquels le Seigneur pourra achever son œuvre. Frère Branham l'a dit très clairement alors qu'il était en train de parler de ce que l'Église est passée par une croissance. Il disait, le réveil pentecôtiste est venu jusqu'à la bouche, jusqu'aux lèvres. C'était la de parler en autre langue, avec des bouches balbutiantes. Mais maintenant, il s'agit de ce que l'Église est allée plus loin que ça. Maintenant, ça va jusqu'à la tête. Ça va jusqu'à... Maintenant, il s'agit de ce que tout notre corps soit dirigé et que nous soyons placés sous l'obéissance du Saint-Esprit. Maintenant, l'Église du Dieu vivant est placée sous la directe conduite et direction du Saint-Esprit. La seule comparaison qui peut être tirée est la suivante. Nous tous, nous avons des mouvements charismatiques qui sont désignés comme un mouvement de l'esprit. Mais que là, il leur manque la semence de la parole. À quoi sert tout le mouvement et tout le vent et tout ce qui se passe s'il n'y a même pas de semence? Alors, les hommes sont enthousiasmés, mais d'un enthousiasme, des fils et des filles de Dieu ne pourront pas naître. Comme c'est important, là, de savoir que Dieu, dans ses jours, a mis à notre disposition la semence de la parole, de sa parole, pour que cette semence incorruptible, par l'esprit, soit reproduite. L'Église du Seigneur aura les deux. La semence de la parole et l'action du Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit n'ira pas dans notre direction, ne sera pas conduite dans notre direction, mais l'action du Saint-Esprit, mais c'est plutôt nous qui, par la parole et par l'Esprit, serons conduits dans la direction divine, la direction de Dieu. La différence aussi et consiste en cela. Dieu est toujours, là dans ces mouvements pentecôtistes et charismatiques, il est toujours parlé d'expérience, toujours seulement d'expérience. Et il y a des expériences qui sont inventées d'une manière que cela même est visible quand on l'entend. Pour eux, il s'agit toujours d'expérience. Mais dans l'Église du Dieu vivant, il s'agit de la parole. Et la parole est confirmée. Et la confirmation de la parole est la légitimation divine dans l'Église du Dieu vivant. Pas un enthousiasme, pas des expériences ici et des expériences là-bas, dans lesquelles, par lesquelles on planerait dans un autre monde, on bien plane dans un autre monde, mais être fondé clairement sur les paroles de Dieu, la semence de la parole, avoir reçu la semence de la parole de la promesse divine, et ensuite recevoir la pluie et de l'avant et l'arrière saison. Nous n'attendons pas en vain. même si de cette manière pentecôtiste, nous n'avons pas exactement continué comme ça, cela a une signification. Dieu veut amener la fin d'une chose pour pouvoir commencer l'autre. Et maintenant, nous avons atteint le point où plus rien de propre n'a le droit d'être apporté. Jusqu'à maintenant. Et ça, nous devons tous l'avouer. Il y avait un beau mélange. Parole, propre connaissance, credo, opinion personnelle, tout ce qui s'est ajouté encore à cela. Mais maintenant, le Seigneur, lui-même, prendra soin à ce que son Église, son épouse, sortira de la parole infaillible, sans mélange, sans falsification, sans alternance. Alors nous ne sommes plus un mélange et il ne sera plus non plus mélangé. Mais nous sommes alors des fils et des filles de Dieu, soumis à la conduite directe du Saint-Esprit. Et alors s'accomplit ce que frère Branham disait. Maintenant, il s'agit du pouvoir de Dieu dans l'Église. Le pouvoir de Dieu qu'il a aux cieux, dans les cieux, doit aussi par l'Église être manifesté sur terre. Je suis reconnaissant de ce que le Seigneur a dit. Il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. S'il avait dit, il m'a été donné tout pouvoir aussi dans les cieux, alors aujourd'hui, on pourrait ici être dans le doute sur terre. Et nous pourrions dire, ô grand Dieu, à quoi est-ce que nous sert ici sur terre ton grand pouvoir au ciel? Mais il voyait notre basseur et notre faiblesse et a dit, en tant que le ressuscité, en tant que le vainqueur de Golgotha, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Il est assis à la droite de sa majesté, de la majesté de Dieu. Mais son Église est ici sur cette terre. Et il manifeste son pouvoir divin ici sur cette terre par son corps qui est l'Église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité et de ces réalités, de ces vérités divines. Nous avons tous été pénétrés. Et c'est ainsi qu'elle deviendra une réalité divine. Dans ton cœur et dans mon cœur. Le Seigneur nous appelle à tous et dit, bénis vous qui avez cru. Car les promesses que le Seigneur vous a données s'accompliront. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus et annonçons son amour. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Et annonçons son amour. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Et annonçons son amour. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus et annonçons son amour. Et annonçons son amour. Père céleste, avec des cœurs courbés et avec un esprit humble, nous venons dans la sainte crainte devant ton trône de grâce. Tu as vu la basseur et oui, de ton peuple. Et malgré tout, tu as donné pour ce temps, tu as placé dans nos cœurs, dans ce temps, les plus grandes promesses. Seigneur, fidèle, qui était Abraham, qui était Isaac et qui était Jacob? Qui étaient tous les prophètes? Qui était tout ton peuple? Tu nous as aimés parce que nous avions du prix à tes yeux. Tu as donné ton sang, tu as répandu ton sang pour nous, tu nous as rachetés et tu nous as appelés de notre nom. Nous t'appartenons. Ô Seigneur, tu nous as envoyé l'un de tes plus grands des serviteurs et des prophètes dans ce temps, un homme qui n'a pas parlé de sa propre inspiration et de ses propres réflexions, bien imagination, qui n'a pas prophétisé de sa propre imagination, bien inspiration, ou bien capable de prêcher ta parole de sa propre inspiration, mais chaque domaine de son ministère était soumis entièrement et soumis réellement à ton esprit d'une seule source. Ne peut pas venir deux sortes de choses. Ô Seigneur, je te remercie de ce que, avec insistance, il pouvait dire que pas une unique fois quelque chose est resté sans arriver et sans arriver, sans s'accomplir ce qui a été prédit et prophétisé. Ô Seigneur, les paroles de ton alliance sont véritables. Nous pouvons nous abandonner à elle. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que ton peuple. Et avec nous tous, tous ceux qui ne peuvent pas être ici, mais qui appartiennent à ton peuple, accorde-nous un cœur vierge qui ne connaît aucun homme, qui n'est pas touché, sans mélange. C'est ainsi que dans ce cœur vierge, nous voulons recevoir la semence incorruptible de ta parole, parce que tu es saint dans tout ce que tu dis et tu es saint dans tout ce que tu fais. Sanctifié soit ton nom, que ton règne vienne. Seigneur, oh, manifeste ton pouvoir par ton Église, tel que tu lui as révélé ta parole, ainsi que cela soit aussi manifesté. Que ta parole a encore aujourd'hui la même puissance. Et produit toujours aujourd'hui encore le même effet et que tu la confirmes encore. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour toutes ces prédications que nous avons à notre disposition. Je te remercie pour tous ceux qui sont prêts à seulement accepter ta parole et à rejeter tout le reste. Sanctifie-nous dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Purifie-nous dans le bain de la parole et lave-nous dans ton sang, Seigneur, pour que tu puisses faire quelque chose avec nous, pour que tu puisses nous utiliser. Seigneur, ta parole en nous, oui, toi en nous, ton esprit en nous, doivent être la puissance qui agit. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions parce que tu as ouvert nos cœurs et aussi les yeux spirituels pour que nous puissions recevoir tout cela et aussi dans la foi le saisir. Saisir, oui, ce que tu fais maintenant. Tu es celui qui conduit la chose de son peuple. Alléluia. Nous te faisons confiance entièrement. Agrée-nous, Seigneur. Sanctifie-moi. Purifie-moi de la tête aux pieds. Mon Dieu, au ciel, viens vers nous, viens à nous dans ta grande grâce et miséricorde. Et fais une œuvre de grâce puissante par ta parole, par ton sang et par ton Saint-Esprit en nous tous. Sépare-nous pour que nous puissions nous laisser purifier. Toi, nous qui portons les ustensiles de l'Éternel. Et pour que nous puissions être utilisés et que nous devons être utilisés par toi. Toi, Dieu Tout-Puissant. Toi qui trônes au ciel, qui... Tu manifestes aussi sur terre, que ton pouvoir soit manifesté sur terre par ton Église pour l'honneur et la de ta glorieuse grâce et que toutes tes promesses trouvent leur accomplissement. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu le feras. Alléluia! Loué et honoré. Gloire et honneur et adoration soient apportés à ton nom. Et qu'il nous soit fait comme tu l'as dit. La parole de tes promesses, de ta promesse, s'accomplira. Je te remercie et je t'apporte l'adoration dans le saint nom de Jésus. Amen. Fin de la transmission.